ce sera cette fois sur françaisfacile.rfi.fr. Il y a même un script pour vous aider, donc de la version écrite. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Toujours les pieds sur terre, voilà, on a regardé vers le ciel avec Sidonie tout au long de la semaine, mais on n'a rien vu, on n'a pas vu d'OVNI, sauf aujourd'hui on a vu beaucoup de vent, quelques branches volées éventuellement, mais rien de plus. On vous rappelle quand même ces quatrièmes rencontres ufologiques à Montsoreau les 25 et 26 octobre, donc ce week-end sur la thématique OVNI et nucléaire, parce que c'est proposé par OVNI Anjou et TUFO. Voilà, TUFO. Ça veut dire Touraine Ufologie. D'ailleurs, on vous renvoie vers le podcast qui était donc ce lundi. On était aussi avec le Centre Carmet mardi. Hier, nous étions avec l'écolieu de la Chancelière. Et ce soir, nous sommes avec le Quai. Et on a la chance, c'est la deuxième émission consécutive. On est vraiment avec tout le Quai, enfin tout le Quai. CDN et CNDC. Côté CDN, on va bien évidemment parler de représentation. Côté CNDC aussi. Alors la programmation, les titres précisément, on parle de Au Bon Pasteur, Peine Mineure, avec Pauline de Boffle dans quelques instants. Et aussi de Edith Bill, On Rend Sweeney. C'est ce qu'elle m'a promis. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite aborder. Et avec Marion et Suzanne, tout à l'heure, on va parler d'une danse continue. Et c'est tout accroché. C'est d'Emmanuel Wynn. Voilà le programme. On aura aussi l'agenda culturel. On va rester en culture. Bonsoir, Suzanne. Lequel ? Le rouge, le jaune, le rouge ?
Bonsoir.
On a des dates, beaucoup d'événements aussi annoncés ?
Oui, il y a pas mal d'événements pour ces vacances. Ça va être un peu effrayant.
Effrayant, bah oui, forcément, j'imagine que c'est avec la thématique Halloween. L'agenda culturel, c'est à 18h30. Et la chronique d'actu, si Mathéo ne loupe pas son tram ou son covoite, ce sera en fin d'émission. Topette, c'est parti.
18h10, 19h. Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant ça, un petit peu d'actu avec toi, Sidonie. J'ai l'info, l'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Tout au long du mois d'octobre, le Maine-et-Loire vit au rythme de l'événement « C'est quoi ton entreprise ?». Une grande opération qui invite le public à visiter des entreprises locales, petites ou grandes, pour découvrir leur métier, leurs coulisses et leur innovation. Il sert à favoriser la rencontre entre les habitants et les acteurs économiques du territoire. Près d'une centaine d'entreprises participent cette année, dans tous les domaines, industrie, artisanat, agroalimentaire, services, agriculture ou encore recherche. Parmi elles, citons par exemple le Café 1700, qui sont torréfacteurs artisanaux à Saint-Laurent-de-la-Plaine, ou encore les ateliers Perrault, qui sont spécialisés dans la menuiserie et la restauration du patrimoine. Certains ouvrent leurs portes au grand public, d'autres organisent des ateliers ou des démonstrations. L'idée est de montrer la richesse de l'économie locale et de faire découvrir des métiers parfois méconnus. Une initiative qui séduit chaque année davantage. Selon les organisateurs, plus de 5000 visiteurs ont déjà pris part à l'événement dans le département depuis le début du mois. Cette démarche s'est renforcée depuis la pandémie, à un moment où les entreprises ont cherché à retisser un lien direct avec le public, notamment les jeunes. On observe aussi une envie croissante de transparence et de proximité pour comprendre comment sont produits nos objets, nos aliments ou encore nos bâtiments. Historiquement, ce type d'opération s'inscrit dans la lignée des journées de l'industrie lancées dans les années 1990, mais avec un regard plus moderne. On parle désormais de filières durables, d'éco-ception et d'emploi local. Cela redonne du sens à l'économie locale en montrant que derrière chaque entreprise, il y a des femmes, des hommes et un savoir-faire. Direction maintenant Angers, où la métropole poursuit sa transformation vers une ville intelligente. Lancée il y a 3 ans, cette démarche franchit une nouvelle étape avec le déploiement des abris BAC connectés. Ce sont des points de collecte des déchets équipés de capteurs électroniques, capables de signaler leur taux de remplissage en temps réel. Aujourd'hui, ces abris BAC sont installés dans plus de 70% des quartiers urbains. Et selon la dernière enquête de la métropole, 80% des habitants se disent satisfaits du dispositif. Cela permet de réduire les débordements, d'optimiser les tournées de collecte et de mieux trier les déchets recyclables. Les agents municipaux peuvent même suivre les données à distance pour intervenir uniquement là où c'est nécessaire. Ce système s'inscrit dans une démarche plus large, celle d'une gestion intelligente des ressources urbaines. Angers fait partie des villes pionnières en France dans ce domaine, aux côtés de Dijon, Lyon ou Nice, qui expérimentent aussi des capteurs connectés pour l'éclairage, la qualité de l'air ou la circulation. Au-delà de la technologie, c'est une vraie réflexion sur le quotidien. Comment rendre la ville plus fluide, plus propre, mais aussi plus agréable à vivre ? Les premiers résultats sont encourageants. Le tri sélectif a augmenté de près de 12% dans les zones équipées et les coûts de collecte ont légèrement diminué. Un signe que la Smart City n'est plus un concept futuriste, mais une réalité bien ancrée dans le territoire angevin.
J'ai l'info sur Radio G. Merci beaucoup Sidonie. Bonne nouvelle, au cours de ton flash, on a eu l'arrivée de Mathéo, donc on aura bien une chronique d'actu tout à l'heure en fin d'émission. Et autre chose, j'ai oublié d'annoncer qu'on entendra Photo 5 Sens nous parler de son concours de photos selfie. Voilà, on aura plus d'infos tout à l'heure avec Bruno. En attendant, on accueille nos premiers invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
On va faire de gauche jusqu'à ma droite. Suzanne Copin pour le CNDC, chargée com.
Oui, responsable com.
Responsable communication. À côté de toi, Pauline. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Pauline Deboffle, la billetterie du CDN, le Centre Dramatique National Le Quai, et aussi à la communication numérique.
Tout à fait.
Exactement. Et juste en face de toi, nous avons Marion. Bonjour, bonsoir, Marion.
Bonsoir.
Marion Colletter, alors c'est co-directrice cette année ou directrice adjointe ?
C'est vrai que c'est compliqué, nos titres, on change en plus souvent.
En tout cas, t'es
directrice
avec
déléguée. Voilà. Avec Noé Soulier.
Avec Noé Soulier.
Le CNDC.
Exactement. Bah, le CNDC, on va commencer par vous, si vous le voulez bien, puisque du coup, vous êtes à deux voix pour nous parler du spectacle. Je le reprends dans le bon sens. Ça s'appelle, Marion, il faut que tu mettes. Parce
une
que
danse continue.
Oui, une
en
danse
un
continue.
Seul mot.
D'Emmanuel Huyn.
D'Emmanuel Huyn.
Alors, une danse continue, j'ai l'impression que déjà dans le nom, ça exprime ce qui va se passer dans ce spectacle, dans cette chorégraphie, non ?
Une continuité, oui, ou un retour, en fait, sur une danse qui s'est construite, qui s'est écrite, qui s'est formée depuis 30 ans, celle d'Emmanuel Huyn. Alors, c'est un événement de l'accueillir, ce spectacle, pour plusieurs raisons. D'une, Emmanuel Huyn a dirigé le CNDC entre 2002 et 2014, entre 2004 et 2012, pardon, excusez-moi, j'inverse les deux et les quatre.
Donc encore avant Noé.
Oui, avant nous, il y a eu une précédente direction et Emmanuel était encore celle d'avant. Donc elle a une attache particulière à ce lieu, à Angers, les Angevins connaissent son travail. Et là, c'est l'idée de le retrouver avec en plus une première, ce sera les premières représentations de ce spectacle. Emmanuel Huyn et toute son équipe de création sont déjà dans les murs du quai, en T400, en résidence, comme on dit, à créer, à affiner en fait ce spectacle qui sera présenté pour la première fois le 4 et 5 novembre.
19h pour la première date, le 4 novembre, et 20h pour la deuxième date. Une danse continue, alors tout est continu. Le titre, la façon dont écrit le titre, et puis le visuel qui est à côté, il n'y a pas de discontinuité entre ces corps qui s'entremêlent,
Tout à fait, qui s'entrelacent. Et c'était effectivement l'envie, en fait, d'Emmanuel d'entrelacer, de repenser, de revoir toutes les danses qui l'ont accompagnée depuis 30 ans, celles qu'elle a écrites. Alors ce spectacle, il est né en fait à partir d'une commande qu'elle a eue du Wiener Festotion, qui est un grand festival européen à Vienne, où on lui a demandé d'écrire une pièce chorégraphique sur une musique de Xenakis. Et donc Xenakis, compositeur important aussi pour les musiques, on va dire, modernes, électroniques, expérimentales, et avec une composition très particulière de la musique, Emmanuel a voulu aussi se confronter à une composition de pièces un peu différente, c'est-à-dire retracer une vingtaine de spectacles qu'elle a créés dans les 30 dernières années, et en extraire les lignes fortes de l'écriture de son geste, de son mouvement. Alors, vous me voyez pas, mais je fais un geste en même temps de ma main, une ligne très, très droite, parce que Emmanuel, je dirais qu'elle a cette intention encore plus avec cette pièce, de tracer un geste, de tracer des lignes avec les corps. Elle s'intéresse vraiment, il y a une sorte d'obsession, en fait, de la pureté d'un geste, de la simplicité d'un geste, mais pour en faire quelque chose d'une, voilà, d'une émotion aussi, voilà, directe, pure, pour le spectateur et spectatrice. Et dans cette pièce, également, on retrouvera des interprètes, ils seront cinq danseurs au plateau, danseurs, danseuses au plateau, c'est des interprètes qui ont traversé les différentes pièces qu'elle a créées depuis ces 30 dernières années. Donc voilà, la mémoire, elle se retrouve à différents endroits, dans la composition, dans ses mouvements et ses phrases de gestes qu'on retrouvera, et dans l'interprétation de ces danseurs-danseuses qui sont totalement imprégnés de son écriture chorégraphique.
Un geste, à la fin du résumé, qu'on annonce comme la charge d'un passage entre ce qui a été, ce qui persiste, ce qui peut-être s'invente déjà. On le comprend à la démarche, tu viens de l'évoquer, Marion. Est-ce que c'est pas aussi un écho à notre monde, notre société, qui semble aussi un petit peu comme ça, d'être dans un geste de passage aussi entre ce qui a été et ce qui sera peut-être plus, ou ce qui sera encore demain?
Peut-être. En tout cas, j'en ai pas parlé avec elle comme ça, mais tu as raison. Je pense qu'il est important aujourd'hui de regarder le passé, de ce qui s'est passé avant, et d'en tirer aussi des conséquences pour changer nos actions. C'est vrai que c'est un peu ça, ce qu'elle va essayer de faire, retracer des extraits de pièces pour les réinventer aujourd'hui, à l'aune d'aujourd'hui, à l'aune de ces danseurs qui ont 10, 15 ou 20 ans de plus que la fois ils l'ont interprété. Donc oui, d'autant plus que le travail d'Emmanuel Wynne en lui-même a aussi beaucoup cette part de dialogue et de relation avec d'autres arts, mais aussi avec la société, quoi, on va dire, d'une manière globale. Donc, je te rejoins sur cette analyse.
Et est-ce qu'il y aurait aussi une continuité pour les publics, justement, qui ont pu, alors c'était pas forcément son travail à elle qui était programmé au CNDC quand elle en avait la direction, mais en tout cas qui avait cette approche artistique de ses propositions, de ses choix de programmation et de spectacle, de collaboration aussi. Est-ce que par rapport au public, on va retrouver des habitués du CNDC, ou alors peut-être des nouveaux regards également?
Eh ben, j'espère un peu des deux. Alors effectivement, comme je disais, le public angevin a pu découvrir entre 2004 et 2012 le travail d'Emmanuel, mais pas seulement. On l'avait aussi invité en mars dernier pendant conversation à présenter son tout premier solo qu'elle interprétait, qui avait été créé en 1995, Mua, et son dernier solo qu'elle avait créé il y a 4-5 ans, pour redonner aussi à cette chorégraphe, cette compagnie qui a 30 ans d'existence, 2025 c'est les 30 ans de la compagnie, une place importante. Et pour ce spectacle, ce solo Mua, donc qu'elle avait créé il y a 30 ans, qui se passe dans une atmosphère très particulière, je ne peux pas en dire trop, parce que peut-être qu'on la reprogrammera, il faut pas trop en dire, mais il y a des très jeunes spectateurs, spectatrices qui ont découvert ce spectacle et en ont été assez stupéfaits, en fait, bouleversés. Et moi, j'aime bien se dire que une pièce qui a plus de 30 ans, qui a bouleversé il y a 30 ans, parce qu'elle a été, ça a été un vrai tournant aussi dans le mouvement de la danse contemporaine française à ce moment-là, ce qu'elle a proposé dans ce solo, a un impact aussi fort aujourd'hui.
Mais finalement, les chefs-d'œuvre sont intemporels d'une certaine façon.
Tout à fait.
Concernant le, pareil, je m'appuie sur le visuel, je vois un petit peu aussi le, on est sur de la danse contemporaine, comme on se le projette aussi d'une certaine façon. On a vraiment des corps, des mains, des pieds qui ressortent visuellement sur tout est noir autour, sur une mise en scène qui est très épurée, j'ai l'impression, avec peut-être de la musique et des jeux de lumière qui intensifient le geste.
Oui, alors la danse contemporaine, comme on se la projette justement, c'est ça qui est génial avec la danse contemporaine, c'est qu'on a tous une vision très différente et qui peut être très très variée en fait. Alors oui, en tout cas il y a un travail, comme je le disais, elle aime bien mêler les arts, donc il y a un travail très fort qui va se faire avec la musique. C'est Eric M, compositeur qui a travaillé, on va dire plutôt les musiques expérimentales, mais proche aussi de l'électro, qui va créer la bande son. Et il y a un travail très fort aussi visuel et de lumière avec Cathy Olive, qui donne, voilà, effectivement une immersion en fait pour le spectateur, spectatrice, une immersion totale. Et comme tu dis, un certain Une pureté, j'ai pas envie de dire minimalisme pour le travail d'Emmanuel parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est une pureté, une droiture de tous ces du geste de la lumière et de la musique.
L'expression d'un corps est loin d'être minimaliste, c'est loin d'être aussi simpliste que ça, je pense. Suzanne, est-ce que tu voudrais rajouter des choses concernant ce spectacle, peut-être du côté communication ou info pratique déjà, ou même toi, ton appréciation de cette œuvre?
Juste un mot pour rebondir sur la photo, dire que c'était une photo de répétition, donc là les danseuses danseurs ne portent pas les costumes qui sont actuellement en train d'être finalisés dans nos locaux au quai, donc ça sera une surprise de plus à découvrir, que vous pouvez vous imaginer mais avec aucune base.
Des couleurs peut-être, des reliefs.
Peut-être.
Ah, c'est aussi
Emmanuel
vraiment une surprise.
Est assez, oui, pour l'instant pour nous c'est encore une surprise. Et du coup entre Mua et Nuée, les deux solos qu'on a présentés l'an dernier, c'était des esthétiques quand même assez différentes. Donc personnellement je ne sais pas encore à quoi m'attendre de ce côté-là. Donc surprise à découvrir ensemble, et peut-être juste effectivement dire aussi que le mercredi, donc là la représentation est à 20h, mais vous pouvez nous rejoindre dès 19h pour une rencontre avec Emmanuel Huyn et Gilles Amalvi, qui est auteur, critique, et qui l'accompagne aussi sur son travail depuis de nombreuses années. Donc voilà, ce sera un dialogue pour entrer dans la création en amont.
Et ben voilà. Et on redonne les infos pratiques pour réserver sa place tout à l'heure en fin d'émission. Et encore deux, trois petites choses à évoquer avec vous. Le CNDC. Et puis après, on passe à toi, Pauline, pour parler de deux spectacles aussi du côté CDN. On fait une pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Danse au Potmes.
Alles komt, alles gaat en ik blijf maar bestaan. Ik moet loskomen, vasthouden achter elkaar. Liefde is niet zonder pijn, alles zou hetzelfde zijn. Alles komt, alles gaat, heel veel hoog, heel veel laag. Ik moet overal zijn en dan plotseling gaan. Morgen ben ik dit al kwijt, wat je ziet is wat je krijgt. Zonder keuze verdwijnt het vanzelf en een handafdruk vervaart. Wanneer mag ik stilstaan? Soms te klein, soms wil ik gewoon zijn. Niemand hier die ik ken ziet de zorgen bij mij. Druk te maken heeft geen zin, wat nou als ik morgen weer. Soms te groot.
Dans au Potmes de Yed van der Steen sur le 101.5 FM.
Loupette avec Pierre Benoît sur Radio G.
La danse, il en est justement question avec le CNDC. On est toujours avec Suzanne et Marion. On parlait d'une danse continue d'Emmanuel Huyn. Est-ce que, Marion, tu voudrais rajouter encore des choses à propos de ce qu'on a évoqué tout à l'heure avant la pause musicale?
J'espère que tous les angevins, angevines auront envie de venir découvrir cette première, ces premières. C'est vrai que pour nous, c'est toujours aussi excitant de pouvoir présenter des pièces qui se sont répétées et qui se créent au quai. C'est une relation particulière avec l'équipe artistique et ça nous donne encore plus envie de partager ces moments uniques, parce qu'une création, c'est unique, avec plein de public, quoi.
Bon, ben voilà, le mot est passé. Alors, évidemment, il y a encore d'autres spectacles. Il y a Conversation dont on pourrait parler, mais ça, on va en parler bien évidemment en temps et en heure. Cependant, il y a un autre festival auquel vous êtes impliqué, le CNDC, et c'est le L Festival qu'on connaît bien aussi avec le Shabada. Il y a deux dates que tu, Suzanne regarde Marion, Marion regarde Suzanne, qui veut évoquer ces dates, Suzanne peut-être?
Oui, donc le Elle Festival revient à Angers pour sa 3e édition et en partenariat avec le Quai, d'ailleurs c'est un partenariat à la fois CNDC et Quai CDN. On a deux rendez-vous, donc le samedi 15 novembre et le mercredi 19 novembre. Et c'est des rendez-vous qu'on a imaginé donc avec l'équipe du Shabada autour d'une pratique qui s'appelle le voguing. Donc c'est une danse spécifique qui est née aux États-Unis. Et donc ce sera l'idée de découvrir cette culture, parce que c'est pas seulement une danse, mais c'est une culture de façon plus générale. Et donc on propose un atelier danse grand format pour se lancer dans la gestuelle du voguing. Ça c'est le samedi, et le mercredi donc il y aura à la fois une table ronde, donc un espace de discussion pour en savoir un peu plus sur cette culture, et on finira avec un mini ball, donc c'est un défilé de voguing et un concert, le concert de Drea.
Ça c'est sympa qu'on peut pratiquer, c'est expérimenter aussi différemment les propositions culturelles que peuvent faire par exemple le CNDC ou le CDN. On redonne les infos pratiques, vous restez avec nous Marion et Suzanne. On fait même pas un pas de côté puisque du coup on reste au même endroit, c'est juste qu'on va s'intéresser au CDN avec toi Pauline. Pauline, tu voulais parler, alors moi j'ai l'impression de ne cesser de voir ce succès incroyable de ce spectacle Au Bon Pasteur Peine Mineure qui est commis en scène avec Martial Di Fonzobo, donc le directeur du CDN, et Sonia Chiambretto, j'imagine qu'on dit comme ça ?
Tout à fait, Sonia Chiambretto, qui est autrice associée au Quai, et donc qui a écrit ce texte, en fait, c'était une commande d'écriture, qui a terminé là cet été de l'écrire, pour donc une mise en scène de Martial Di Fonzobo, le directeur du CDN. Et donc nous avons cette fameuse actrice dont vous avez déjà entendu la voix dans des génériques de Radio G, qui s'appelle Inès Quérault, qui a été formée entre autres au Conservatoire d'Angers et au Quai, et qu'on a le plaisir de retrouver là juste à la sortie de sa formation dans ce seul en scène, puisque c'est une pièce avec une seule actrice. Et en effet, tu as dû voir passer peut-être sur les réseaux des articles, puisque donc les premières se sont faites là en début octobre au Plateau Sauvage à Paris, et ça a été un succès.
Alors, faut que tu nous expliques un petit peu de quoi ça parle. Au Bon Pasteur Peine Mineure, c'est ici, hein, c'est on aborde en fait des faits réels.
Alors, tout à fait. En fait, Au Bon Pasteur, Peine Mineure 2. Donc, en fait, Au Bon Pasteur, c'est la deuxième partie d'une sorte de diptyque de texte écrit par Sonia Chiambretto, qui s'intéressait, donc, dans la première partie Peine Mineure, au centre éducatif fermé, donc, qui existe aujourd'hui. Et donc là, elle a choisi de s'intéresser au Bon Pasteur, voilà, qui, malheureusement, fait l'actualité régionale et même nationale, puisque, donc, Le Bon Pasteur a commencé à Angers. C'était le premier à Angers, mais il y en a eu pas mal d'autres dans toute la France. Et donc, ce sont voilà, ces centres de redressement, entre guillemets, de correction, au début du siècle dernier, pour les jeunes filles rebelles qui ne répondaient pas peut-être à des normes à l'époque assez sexistes. Et donc, voilà, par redressement, malheureusement, on entendait plutôt en fait des violences sexistes, éducatives, morales. Et donc, c'est de ces récits de vie de ces jeunes femmes qui ont malheureusement dû passer leur enfance voire leur adolescence là-bas, dont il est question dans ce texte. Donc plusieurs trajectoires, plusieurs portraits de femmes qui sont interprétés par Inès, et donc mises en regard avec ce qui peut exister aujourd'hui dans les centres éducatifs fermés. Donc il y a un espèce de parallèle passé-présent, mais voilà, une histoire locale qui est importante de raconter. Il y a également une association qui existe, qu'Inès a pu rencontrer. Elle a pu rencontrer donc ces femmes qui aujourd'hui sont un peu plus âgées et qui mènent des batailles pour l'information autour de donc tout ce qui s'est passé là-bas, mais aussi des actions en justice. Et Inès a fait vraiment un travail presque documentaire avec ces femmes d'écoute, de discussion pour pouvoir mieux incarner leur voix.
Alors, quand on dit que la culture est militante et engagée, là, pour le coup, si géographiquement, quand on voit où est le Quai et quand on voit où est le Bon Pasteur, hein, si je ne m'abuse, c'est bien l'institution qui est à deux pas, finalement. Là, c'est quand même un choix audacieux, affirmé, confirmé, d'un point de vue engagement et militantisme artistique et sociétal.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, le théâtre souvent doit être quand même le reflet un peu de du monde, de son actualité, voilà, des sujets qui intéressent, voilà, qui peuvent nous intéresser. Et donc là, en effet, on est vraiment voilà dans l'actualité, dans le local, avec aussi voilà une comédienne angevine qui est elle donc une jeune femme de 22 ans aujourd'hui. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir voilà son regard, son interprétation sur voilà toute cette histoire, toute cette historique qui est assez lourd, mais aussi voilà ces histoires de femmes, puisque c'est aussi une autrice voilà féminine que le Quai a choisi de soutenir. Vous avez dû voir peut-être Oasis Love, mis en scène donc par Sonia Di Cambretto, pardon, la saison dernière au Quai. Et donc c'est une autrice assez prolifique, voilà, qui écrit beaucoup de textes sur l'actualité, sur la jeunesse, qui s'intéresse beaucoup voilà à des sujets assez militants et actuels.
Alors, j'ai pas pris la date de la représentation ou des représentations, parce que en plus elles étaient pas encore dans la brochure. Donc tu vas pouvoir nous les donner, Pauline, pour qu'on puisse aller voir.
Tout à fait. Alors en fait, c'est en deux temps. On a donc le 24 et 25 novembre au 4, donc c'est l'espace culturel de l'Université d'Angers, et pour les étudiants et étudiantes, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à réserver. Voilà, et dans un second temps, on présentera donc cette pièce au T400 au Quai. Ça sera les 29 et 30 janvier. Et donc là, voilà, c'est ouvert à toutes et tous. C'est en réservation également sur la billetterie.
Voilà, on aura l'occasion de réévoquer les dates qui approchent, et notamment celle de janvier. Ça, c'est pour le premier spectacle sur lequel tu voulais faire un focus. Il y en a un deuxième, Edith Bill, on rend Sweeney.
Alors, faut que tu Reno Sweeney.
Oui,
tout à fait.
Pas sûr de mon accentuation là, hein. Va falloir que tu,
ouais,
tu nous expliques tout ça.
Tout à fait. En effet, moi non plus, je ne connaissais pas ni ces personnes ni ce lieu, le Reno Sweeney, parce qu'on parle d'un cabaret, un cabaret historique, à New York à l'époque dans les années 70. Et donc en fait là, c'est Pierre Maillet qu'on a pu voir la saison dernière au Quai dans plusieurs spectacles, et J'en suis là de mes rêveries, Une vie d'acteur, etc. Voilà, qui est un comédien assez prolifique lui aussi, voilà, qui joue dans plusieurs projets, mais là qui met en scène, c'est sa création. Et lui donc il a choisi de s'intéresser à l'histoire d'Edith Bill. Donc Edith Bill, mère et fille, hein, c'est deux personnes qui sont donc les cousines, qui étaient les cousines de Jackie Kennedy, en fait. Donc c'est une histoire assez fantasque, assez étonnante, qui est très connue aux États-Unis mais très peu chez nous en France, et qui a fait l'objet d'un documentaire des frères Maisel à l'époque, qui donc a priori est un film assez culte aux États-Unis. Et donc en fait, ce sont deux femmes qui ont vécu, alors qui avaient une grande maison dans un quartier un peu chic, puisqu'elles avaient donc une famille assez réputée, mais qui elles ont choisi de vivre totalement en marge de la société, en laissant complètement dépérir cette maison, en vivant avec des dizaines de chats, des ratons laveurs, en ne travaillant pas. Et donc ces deux figures un peu voilà un peu rebelles, un peu transgressives, un peu punk, avant l'heure, et donc d'une histoire voilà de deux femmes, cette relation mère-fille. Et donc Pierre Maillet voilà s'est intéressé à ces figures-là, et a découvert en même temps le texte L'art de la chute de l'autrice Sarah Strisberg, donc là un texte de théâtre qui s'inspire également, et voilà, c'était un hasard, de ces deux figures-là. Et donc il en a fait lui un spectacle plutôt sous la forme de cabaret, puisque voilà, lui c'est des formes qu'il aime, avec du chant, avec de la musique, avec toute une troupe voilà de joyeux acteurs et actrices. On retrouve notamment Frédéric Lollier, qu'on avait vu dans Mets des matériaux l'année dernière au Quai. Et donc voilà, c'est une création là, les premières vont se faire prochainement dans l'est de la France, et donc une coproduction du Quai qu'on pourra découvrir en novembre. Donc ces deux histoires voilà, ces fantasques de femmes à travers une joyeuse troupe et une forme plutôt voilà amusante, avec donc ce cabaret le Reno Sweeney, où Edith Bill fille a fini disons sa trajectoire de vie une fois sa mère décédée, en allant raconter sa vie via des chansons dans ce cabaret.
Et ben voilà un spectacle qui promet d'être haut en couleur. Ce sera le 26 novembre pour la première représentation à 19h, le lendemain de Au Bon Pasteur, si mes dates sont... Oui, ouais, voilà, c'est ça, le 25 novembre. On peut tout faire en fait, ok, on peut vraiment se faire sa petite semaine. Et justement, si vous avez vos agendas d'ouvert, Pauline, tu restes avec nous bien évidemment, gardez-les ouverts, puisqu'on va faire un petit point sur l'agenda culturel ici à Angers et dans le département avec toi, Suzanne.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir. Comme vous le savez, Halloween approche à grands pas. Méfiez-vous, car je vous ai préparé dans mon chaudron quelques petites sorties à ne pas manquer. Alors prenez garde à bien noter ces dates. Sinon je viendrai moi-même vous jeter un sort. Je rigole, évidemment je n'ai ni baguette ni pouvoir magique, mais ça serait dommage de rater tout ce que je vous ai préparé. Pour commencer, comme Jody vous l'avait annoncé il y a déjà 2 semaines, le parc Terra Botanica célèbre sa grande fête de l'automne. Et cette année s'annonce très spéciale, les 15 ans du parc. C'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir les 50 attractions et animations aux couleurs de l'automne. Venez plonger dans une atmosphère magique, placée sous le signe d'Halloween, avec des tatouages éphémères terrifiants, des fabrications de slime végétal ou encore un labyrinthe, de quoi s'amuser et s'effrayer, petits et grands. De 10h15 à 17h30, plongez dans les animations, les spectacles et les chasses au mystère, du 4 octobre au 2 novembre 2025. Pour plus d'informations et de réservations, rendez-vous sur le site www.terrabotanica.fr. Et puisqu'on parle de frissons, direction le château de Verrières-en-Anjou pour un week-end entièrement dédié à cette fête d'Halloween. Le samedi 25 et le dimanche 26 octobre, de 14h à 18h, profitez d'une ambiance ensorcelante et d'animation familiale autour de cette fête mythique. Déguisements, décorations, spectacles, comme par exemple attention aux dragons, maquillage et tout ce qu'il faut pour réunir une famille pour un moment magique et un petit peu effrayant. Mais après toutes ces émotions et ces frissons, on va souffler un petit peu. Direction la collégiale Saint-Martin d'Angers pour une parenthèse tout en douceur avec l'exposition « Songes de papier » de Benjamin Lacombe. Ce célèbre illustrateur, qu'on connaît pour ses dessins à la fois mystérieux et intrigants, nous ouvre les portes de son univers magique. Du 20 septembre au 1er février 2026, vous pourrez plonger dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, de Bambi ou encore de La Belle et la Bête. Et si vous souhaitez rencontrer l'illustrateur, c'est possible grâce à une séance dédicace sur réservation qui aura lieu le mercredi 19 novembre de 15h à 17h. Et ne partez pas tout de suite, pour les cinéphiles ou amateurs de musique, si je vous dis Inception, Interstellar ou encore Dunkerque, vous pensez sûrement à Christopher Nolan ou encore à la bande originale de Hans Zimmer. C'est ce que propose l'expérience musicale Candlelight, des musiciens qui interprètent des bandes originales de films dans des lieux tout particuliers, éclairés à la bougie, comme par exemple des églises ou des monuments historiques. Ce samedi 25 octobre 2025, il y aura un hommage à Hans Zimmer et une occasion de redécouvrir les bandes originales de ces films comme Pirates des Caraïbes, Dune ou encore Madagascar par exemple. À Angers, l'événement aura lieu au Grenier Saint-Jean. Réservez vos places dès maintenant et si vous manquez cette date, pas de panique. 3 autres soirées seront prévues jusqu'au 27 janvier. Alors, pendant ces vacances, faites le plein de sensations et laissez-vous emporter par tout type de frissons.
Merci beaucoup, Suzanne, pour cet agenda culturel. On te retrouve le mois prochain pour ta voix, mais dans 2 semaines, normalement, c'est Jody qui fera l'agenda culturel de Topette. Topette qui continue avec son 2e tout petit sujet. On a une annonce à vous faire.
Topette sur Radio G.
Bonsoir, le Graal. Bonsoir, Bruno.
Oui. Bruno. Tu viens pas en Graal.
Non, tu viens pas en Graal. Bonsoir, Bruno de Photo 5 Sens, me semble-t-il.
Oui.
Qui propose quelque chose en ce moment pour, alors, Photo 5 Sens, le studio pour se faire beau, se faire belle, à Angers, qui propose un concours un peu.
Oui, pour gagner des séances photo professionnelles en studio. Et donc, c'est gratuit. C'est un concours de selfie. C'est la 6e édition. Donc il suffit de se prendre en photo, maintenant c'est la mode, hein, se prendre soi-même en photo avec son portable. Donc il y a la première photo où on doit voir le visage, et la deuxième photo où il y a le visage aussi, mais enfin ça peut être beaucoup plus créatif. Donc voilà, vous avez jusqu'à fin novembre pour pouvoir vous inscrire, c'est totalement gratuit, c'est totalement fun aussi. Donc il y aura un jury qui va essayer de voter pour toutes ces photos, le public va pouvoir également voter en ligne, et puis donc on saura en janvier qui a gagné. Donc il y aura une séance pour un homme, une séance pour une femme à gagner, donc au studio.
Alors quels seraient les critères pour voter si on fait partie du public? On vote pour la personne qu'on, la photo la plus fun, la photo la plus...
C'est pour ça qu'il y en a deux en fait. Donc la première, effectivement, c'est plus la personne, donc on va peut-être voir par affinité sur la personne. Et puis le deuxième, c'est quelque chose de plus créatif. Donc on pourra voter sur l'imaginaire, sur la façon dont la photo est prise, etc. Donc il n'y a pas de critères techniques en fait. Hein. C'est avec le portable, c'est avec n'importe quel appareil. Et donc ça permet de pouvoir s'amuser un petit peu en photo et pouvoir se soumettre au vote des autres.
C'est la question que j'allais poser. C'est important de bien comprendre le règlement quand on participe à un concours. Parce qu'un selfie, bon, on le pratique tous, on prend son téléphone ou un autre appareil photo, tu le dis. Mais est-ce que si on peut tricher un petit peu et faire un effet selfie, une mise en scène par exemple pour la photo fun ou ce serait quelqu'un d'autre qui nous prend en photo, ça se serait autorisé ou pas dans le concours?
Alors c'est plus du selfie effectivement, mais on peut toujours poser l'appareil et puis se mettre devant, donc ça peut être une autre personne derrière, on saura pas de toute façon, mais c'est plus vous qui êtes mis en valeur et qui êtes sur la photo, c'est plus ça qui est intéressant. Prenez pas une fleur par exemple, ça sera pas intéressant.
Oui, évidemment. Où est-ce qu'on retrouve les infos pratiques et où est-ce qu'on découvre le travail de Photo 5 Sens?
Alors pour le concours, c'est concours.5sens.fr, donc concours C-O-N-C-O-U-R-S, point 5 comme le chiffre 5, sens.fr. Voilà, tout simplement, puis vous pouvez vous inscrire, et puis sinon, le studio, c'est studio.5sens.fr.
Voilà, écoute, on va essayer de participer à ce concours avec les membres de l'équipe, on va voir qui gagne. Merci beaucoup Bruno.
Merci à toi.
On va passer à notre chronique d'actualité avec Mathéo.
Ce sont des scènes horribles qui ont eu lieu devant l'entrepôt à Angers dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier. Durant une partie de cette dernière avait lieu une soirée, un drag show nommé Queen Factory qui fêtait sa deuxième édition. Mais ce qui devait être une célébration de la différence est devenu le théâtre d'actes haineux et violents. À la sortie du show, deux hommes âgés de 19 et 20 ans, alcoolisés, ont pris à partie des artistes drag queen et des bénévoles. Des propos transphobes et homophobes fusent, les deux individus en viennent aux mains. Les visages sont en sang et le regard des agresseurs remplis de haine. Une fin de soirée chaotique. C'est la première fois que des scènes aussi violentes ont lieu à Angers à l'encontre de la communauté queer. Si les deux individus ont été interpellés et seront de passage devant la justice en mars prochain, les faits n'en restent pas moins alarmants et questionnent sur cette haine de la différence qui revient sur le devant de la scène. Alex et Charisma Caron sont derrière le compte Agent Drag Angers. Ils réagissaient sur Instagram à ce violent événement.
Cette agression est d'autant plus choquante car ce spectacle réunit des artistes et un public aux identités plurielles qui ne cherchent qu'à s'exprimer en toute sécurité et liberté.
Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que nous les artistes, on ne se taira pas et nous ne cesserons pas d'exister. Le drag, la danse, le chant, l'art en général et surtout la joie sont nos armes aujourd'hui pour nous exprimer en société. Ce n'est pas à nous de fuir nos safe places, ce sont nos endroits, notre communauté et une communauté unie qui va continuer de danser pour vivre.
La haine ne vaincra jamais nos identités, notre amour et notre joie d'être ensemble.
Ces faits ne sont en aucun cas isolés, c'est là que le problème réside. Il y a un an, par exemple, à Nantes, le bar Le Petit Marais avait été contraint d'annuler une soirée drag queen à cause de menaces de mort et de messages de haine. Plus récemment, en septembre dernier, à Poitiers, le collectif Colloque Drag avait été violenté en pleine rue, place Notre-Dame, où un des agresseurs avait même lancé un verre au visage d'une des artistes, provoquant 13 points de suture. À l'origine de ces actes, on retrouve généralement des groupes identitaires qui s'inspirent d'une violence qui se déchaîne aux États-Unis. Selon l'organisation GLAAD, il y avait dans le pays de l'Oncle Sam plus de 141 attaques uniquement contre des spectacles drag en 2023, des attentats d'extrême droite comme celui qui a eu lieu en 2022 à Colorado Springs où se déroulait une célébration de la journée du souvenir trans et qui avait fait 5 morts et 26 blessés. Il y a aussi les Proud Boys qui prennent régulièrement à partie les artistes drag. L'état du Tennessee a même interdit toute représentation de ce type au sein des espaces publics. Tout cela a évidemment donné des idées forcément à l'extrême droite française qui se rend aussi compte avec leur démocratisation que les drag queens sont des êtres humains comme les autres. Toutes ces mouvances sont dangereuses, presque invisibilisées par les médias, des médias qui ne sont pas d'une grande aide quand il faut relayer de graves agressions comme celle qui a eu lieu à Angers. Elle a été révélée par Libération, elle a ensuite été relayée par le Courrier de l'Ouest, Ouest France et Street Press, mais c'est tout. Uniquement des médias de la PQR ou des médias de gauche, dont un pur player. Rien d'étonnant, les médias dits traditionnels semblent trop occupés à paver la voie royale vers Matignon et l'Elysée au RN sans vraiment se préoccuper du fond, car si la haine des drag queen existe, c'est aussi car il y a une haine, des personnes trans et LGBT grandissantes portées par des politiques d'extrême droite qui semblent avoir carte blanche dans leur attaque au progrès. C'est là que le propos s'élargit. Si on se penche, si on creuse, et bien on trouve toujours, et c'est ça qui est bien avec eux, la plus forte en la matière, c'est Caroline Parmentier, bien sûr, députée RN et chargée de la mission de dédiabolisation du RN. Mediapart, le 6 juillet dernier, dévoilait des propos qu'elle avait écrits dans le journal d'extrême droite présent. Au-delà du racisme, elle y voyait en France un lobby LGBT qui représentait à ses yeux une menace et qu'elle qualifiait aussi les personnes LGBT de collabos du sida. Nous avons aussi Roger Chudeau, lui aussi député porte-voix d'une association contre le wokisme, le fameux terme fourre-tout, qui vise notamment les personnes LGBT et qu'il met bien sûr dans ce sac et qu'il juge comme une menace pour le pilier de la civilisation, rien que ça. Le RN qui, dans le plus grand des calmes, a aussi déposé une proposition de loi visant à encadrer la prise en charge des mineurs en questionnement de genre, bien qu'encadrer n'est pas le bon terme, on pourrait plutôt utiliser celui de restreindre. Si ces propos passent sous les radars, ces propositions de loi ne questionnent les propositions de loi ne questionnent pas vraisemblablement tout le monde. En fait, ils sont plutôt représentatifs d'une société qui stagne, voire qui recule sur le sujet. En France, l'année 2023 a connu une hausse des actes anti-LGBT conséquents, plus de 13%, représentant en tout 4560 infractions selon le ministère de l'Intérieur. Entre 2021 et 2022, et selon un rapport de SOS Homophobie, les agressions physiques et homophobes ont augmenté de 28% en 2023. Ces agressions physiques contre les LGBT+, se comptaient au nombre de 266. Elles dépassent largement le cadre de groupuscules d'extrême droite. Tous ces discours de diabolisation de la part de la droite et de cette extrême droite fait ressurgir cette homophobie. C'est un phénomène d'amplification qu'on pourrait expliquer en utilisant la théorie de l'étiquetage d'Howard Baker, une forme de marginalisation qui se fait à l'aide d'étiquettes collées sur les gens. Pour les drag queens, par exemple, on colle l'étiquette d'art provocateur, de danger pour les enfants, comme quelque chose d'anormal, bien loin de la réalité. De manière plus large, c'est Bourdieu qui parlait de l'habitus de reproduction des normes, et cette société qui casse et hiérarchise selon des normes dominantes, qui dicte ce qu'il faut faire ou ne pas faire, être ou ne pas être. Alors d'une société patriarcale, hétéronormée, où la virilité chez l'homme et la féminité chez la femme dominent toujours dans les idées, cette bascule fait peur. Un double discours dans un monde où le mot liberté est au centre de tous les débats, mais où son application pose question. Michel Foucault disait dans son ouvrage Histoire de la sexualité, paru en 1979, que le pouvoir ne dit pas tais-toi, il dit parle, mais dans mes termes, sous mon contrôle. C'est quelque chose qui fonctionne aussi avec la sexualité, ces communautés qui représentent un corps hors contrôle, et c'est cela qui dérange vraiment, sauf que pas de chance, les drag queens sont aujourd'hui devenues les porte-parole de cette liberté de penser, de faire et d'être, et c'est bien normal au vu de ce qu'elles ont traversé, traversent encore. Quand au 19e siècle, des hommes commencent à jouer des femmes au théâtre, un espace de liberté se crée pour les personnes homosexuelles ou aux genres non conformes, ils se cachent, clandestinité qui les suivra longtemps, une répression constante, même dans les bacs des drag des années 30, un véritable oasis dans cette époque où l'indifférence règne. Mais derrière toutes ces arrestations, il y a une véritable culture underground qui se construit, grandit, évolue, attend son heure et qui va finalement exploser aux yeux du monde le 28 juin 1969 au bar Stonewall, premier acte de résistance politique du mouvement plus que centenaire, avec cette phrase désormais légendaire: nous sommes là, nous sommes queer, habituez-vous. La pop culture va rendre les drag queens encore plus visibles, et c'est logique car elles mettent aussi le monde en scène, comme l'expliquait Judith Butler. Le genre, c'est avant tout une performance, un mythe naturel, alors pourquoi ne pas le déconstruire et l'emplir de joie? C'est tout le propos d'une liberté qui n'est pas factice, c'est tout le propos d'un art qui aujourd'hui aide les personnes qui se cherchent à exploiter le bonheur qui naît de l'expression de leur véritable identité.
Merci beaucoup Mathéo pour cette chronique d'actualité qui est un vrai édito engagé aussi, comme tu sais bien les mener, et qui, je voyais des acquiescements, voilà, par rapport aux propos qui étaient évoqués, puisque mine de rien ça fait aussi écho à pas mal de sujets qui étaient dans les spectacles qu'on évoquait aussi ensemble avec le CDN et le CNDC. Voilà, je sais pas, on a un petit peu de temps, est-ce que Marion, tu voulais avoir une petite réaction éventuellement à ces propos ou pas?
Oui, réaction, effectivement, les deux soirées, enfin les deux journées voguing, autour du voguing que Suzanne évoquait tout à l'heure, sont justement aussi un espace de partage, j'ai pas envie de dire de résistance, mais justement de partage et de partage de cette culture-là. Le voguing, il s'est construit aussi beaucoup après les années 70 à New York, suite en réaction aussi à cette attaque que tu évoquais tout à l'heure. Donc il y a des liens, et évidemment nous, ce qu'on a envie, c'est que ce soit des espaces pour eux, et c'est ce que les personnes de cette communauté-là aussi souhaitent. En tout cas, le 15 et le 19 novembre, c'est ce qu'on essaiera de faire tous ensemble, et en soutien avec les deux drag queens qui se sont fait agresser récemment ici à Angers.
Voilà, alors ça, c'est dit, puisque tu parles de la date que tu évoques, on peut aussi parler de l'autre date qu'on a évoquée ensemble, Marion, une danse continue, ou Suzanne, sur quand est-ce qu'a lieu la représentation, pour les infos pratiques plutôt.
Donc une danse continue, c'est les 4 et 5 novembre, on peut redire que le mardi, donc le 4, il y a une soirée étudiante, c'est 5€ si vous êtes étudiant et étudiante, et on propose aussi de garder vos enfants si vous êtes jeune parent à partir de 3 ans.
Bon, jeunes parents à partir de 3 ans ou les enfants à partir de 3 ans?
Non, jeunes parents depuis 3 ans.
Voilà, c'est ça.
Faut que vos enfants aient au moins 3 ans.
C'est pas les tout petits, il faut qu'ils aient au moins 3 ans, qu'ils soient un minimum à l'école. Merci beaucoup Suzanne, merci Marion aussi. Et puis toujours un plaisir de vous avoir au micro de Topette, surtout avec vos propos engagés. Propos engagés aussi qu'on retrouve au travers des deux spectacles qu'on a évoqués ensemble avec toi, Pauline, qu'on va rappeler au Bon Pasteur, peine mineure 2, je pensais que c'était un mauvais copier-coller que j'avais fait, mais non, le 2 fait partie du titre.
Tout à fait, parce que comme je te disais, c'est le sous-titre en fait de cette pièce, voilà, avec un texte en deux parties, mais donc là on sera sur le bon pasteur. Donc 24-25 novembre au 4, gratuit pour les étudiants et étudiantes, 29 et 30 janvier au quai Anté 400, et puis pour le spectacle Edith Bill au Reno Sweeney, donc là ça sera du 26 au 28 novembre, on aura une soirée étudiante également à 5 euros le 27 novembre avec une rencontre à l'issue du spectacle pour poser vos questions à l'équipe artistique, ainsi qu'une soirée enfant le vendredi 28.
Voilà qui est dit. J'ai perdu le fil, j'étais en train de regarder autre chose. T'as parlé du deuxième spectacle.
Tout à fait, oui, j'ai
eu un petit
c'est
doute.
Bon, c'est fait.
Bon, bah, c'est fait. Les infos pratiques globalement pour le quai CDN, on a les réseaux sociaux, TikTok, votre podcast, le site internet tout simplement.
Voilà, exactement. Ainsi que l'application mobile, parce qu'on a aussi une application développée en interne. Donc, n'hésitez
on l'oublie trop souvent, cette
application.
Faire
votre agenda avec. Des likes, etc.
Voilà. Alors, CNDC n'a pas encore son application. Si, c'est la même.
C'est la même. La programmation, voilà, du CNDC est également sur l'application. Et comme la billetterie aux communes, bien sûr, ça rassemble toutes les infos.
Et la plaquette, la programmation qui est, comment tu l'avais nommée l'autre jour, Pauline?
Bigou. C'était Marion.
Bigou. C'est Marion qui avait dit Bigou. Ok, bon, bah voilà. Bigou. Un côté CNDC.
Ça nous rappelle notre jeunesse et les Malabar.
Ah bah,
t'as pas connu les Malabar Bigou.
Ah si, Bruno.
Merci. C'est gratuit ça.
Non mais les Malabar Bigou, t'as connu?
Mais ça existe encore les Bigou, oui. Écoute.
Malabar, j'ai un doute si ça existe.
Mais bien sûr que si. Ah là là.
Si ça existe, Mathéo, encore.
Ouais. Il n'y a plus les transferts, mais ça existe encore.
C'est une vraie question. Il va falloir que j'aille vérifier si je peux encore acheter des Malabar là en 2025. Alors on parle de s'accepter, soi, les autres et tout ça. Ça participe aussi de sa propre image aussi, Bruno. J'ai un petit lien avec le concours selfie que tu proposes avec Photo 5 Sens.
Oui, alors donc rendez-vous sur le site concours.5sens.fr avant fin novembre pour pouvoir poster votre selfie et gagner une séance gratuite. C'est quand même un lot de plus de 200 euros, donc c'est sympa.
Et ben voilà, qui est dit. Merci beaucoup d'être venu dans Topette ce soir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi à partir de 18h10. J'ai plus le programme en tête, j'essaie de le faire de tête. Je ne sais plus de quoi on parle, mais on vous tiendra au courant à partir de 18h10 sur le 100.5 FM. Bon week-end, à lundi et Topette.
M'attends tes pieds quand j'ai changé mon visage. Pourtant j'appréhende toujours le fait d'un mauvais présage. Il faut que tu saches pendant ce temps, on a chacun tracé nos routes. J'ai cimenté mon âme de cran et courbé les voûtes. Ce n'est qu'une illusion, retire les mains des yeux. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est que moi derrière. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis toujours honnête. J'ai besoin que tu me vois tel que je suis aujourd'hui. En apesanteur, j'aimerais croire qu'on s'aimait tant. Je sais mon chemin vers d'autres lignes que j'ai découvert en marchant. Tu sais, cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions. Un saint principe de transition. Qu'une illusion, retire les mains des yeux. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est que moi derrière. Tu n'as pas à t'en faire, je suis toujours honnête. On a vécu plein de choses ensemble. On a vaincu plein de choses ensemble. Nous étions perdus ensemble, on s'est soutenus, on a joué. À qui pourra s'évader le premier? On a joué. Tu n'as pas t'en faire.